Et on poursuit avec un second film, le prétendant malheureux à la Palme d'Or cette année, est signé Pedro Almodovar. Il s'appelle Douleur et Gloire.
¿Ves Alberto?
Me alegra que ya no le guardes rencor.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. La filmoteca ha restaurado sabor. Por eso creo que ahora es justo que la presentemos los dos en la filmoteca.
No te reconozco, Salvador.
Asco. No has sido un buen hijo, hijo mío.
No.
No.
No quiero ir al colegio, quiero quedarme aquí.
Cuidado, qué niño. Tú eres muy novelero.
No voy a permitir que me humilles otra vez.
Tu tiempo, cabrón, ven aquí.
Sí.
Cada película tuya era un acontecimiento en mi vida.
Estoy con Salvador Mayor.
Un peu émouvant rien que d'entendre la bande-annonce. Pedro Almodovar qui signe donc ce film, ce film qui, c'est compliqué à résumer, qui revient un petit peu sur, je le disais en introduction, ses angoisses de réalisateur et puis tous ses fondements de son cinéma. Évidemment, sa mère omniprésente. En un film où il se filme lui-même, donc, réalisateur, Salvador Mayo, réalisateur en difficulté, qui ne réussit plus à faire de cinéma, qui se met brutalement à l'héroïne pour tenter de dompter la douleur de son corps fatigué et réussir peut-être à se replonger dans sa jeunesse, dans son enfance, où il a rencontré ses deux grandes passions de sa vie, que sont sa mère et le cinéma, et puis qui rencontre comme ça, soit en souvenir, soit dans la vie, les personnages qui ont peuplé donc sa vie pour ce film, tout en raccord, tout en une espèce de grand patchwork de souvenirs et d'émotions, extrêmement personnel, sans doute le plus personnel d'un réalisateur qui a quand même pour habitude de faire des films assez intimes, pour donc ce Douleur et Gloire. Alors, j'ai bien aimé, vous l'avez entendu, mais qu'en ont pensé les autres personnes autour de la table ?
Bah, moi j'ai déjà donné mon avis dans une autre émission parlant de cinéma, mais je crois qu'elle s'est un peu précisée avec le temps. Je crois que j'ai bien aimé ce qui était mon premier Almodovar, ce qui veut dire quand même pas mal de choses, parce que je n'avais pas les références dans lesquelles il tombait, je n'ai pas trouvé ça nombriliste. Je trouve que le film est très très agréable, vraiment est très agréable et c'est magnifique. Enfin, les passages de flashback sont, je pense, les plus beaux passages de tout le film. Je trouvais ça très très beau, très touchant, et là je dis des choses plus générales et j'espère que les personnes qui vont venir après moi vont peut-être préciser un peu plus.
Mais c'est très bien, Colline.
Mais je ne l'ai pas vu, donc j'écoute votre avis, mais je ne participerai pas.
Mais nous ne sommes que tous les deux sur
ce film. Nous ne sommes que tous les deux sur ce film.
Alors effectivement, non mais tu parlais des passages de flashback, effectivement, ce film est construit autour de ces flashbacks du réalisateur qui se souvient de son enfance. Et c'est des flashbacks qui, je trouve que leur principal intérêt, enfin intérêt, plus que des flashbacks qui sont des espèces de qui seraient des espèces de souvenirs un peu réifiés qu'on insère à grand renfort de technique, on a vraiment des espèces de tableaux très très vivants. C'est-à-dire qu'on les voit comme le réalisateur s'en souvient, plus que de façon un petit peu figée. Et qui sont vraiment là pour essayer de convoquer tous ces personnages dans ses souvenirs autour de lui. Et c'est ça qui est effectivement la très grande force du film, je trouve, c'est la fluidité avec laquelle on passe d'un flashback à une rencontre d'un personnage que peut-être on reverra plus, avec laquelle on passe entre les deux actrices qui jouent sa mère, par exemple, et qui, je veux dire, ça pourrait paraître complètement raté, complètement cocasse. Et finalement, il y a cette espèce on est vraiment dans une espèce d'intimité qui fait qu'on échappe à une certaine forme de réalisme. Je pense au début, quand il liste les maladies qu'il a, pendant 2 ou 3 minutes, on a des espèces d'images de synthèse ultra bizarres qui montrent des bouts de corps humain, puis on a tous les os, et ensuite on a tous les muscles, et puis ensuite on a... Et puis il finit par parler de la dépression avec des trous noirs reconstitués. Enfin bref, il se passe des trucs vraiment bizarres. C'est à la fois très très ludique, ça reste du Almodovar quand même. Et puis en même temps, c'est... On voit d'emblée que c'est un réalisateur qui se livre, et qui se livre complètement à nu, jusque dans ses... dans ces scènes d'enfance qui sont effectivement vraiment magnifiques, comme tu le dis, qui sont servies par une Penélope Cruz qui, comme souvent, irradie absolument. Et oui, il y a quelque chose de très très fort dans une double déclaration d'amour à sa mère et au cinéma, comme un peu toujours, mais qui est d'autant plus belle qu'elle est fragile, je trouve.
Alors, je vais rajouter une troisième personne, je pense. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, et je vais encore parler de nu. C'est le maçon. Parce que pour contextualiser, à un moment, le jeune Almodovar est face à un maçon qui lui déclame des grandes leçons de vie. Et en fait, c'est là où il s'éveille fortement, parce qu'on peut dire c'est le jeune Almodovar, à l'homosexualité. Donc, on ne sait pas si c'est un souvenir reconstitué ou la façon dont il a de s'ouvrir au corps des hommes. Et je trouve cette scène mais génialissime. Il y a ce passage, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le lien extrêmement presque charnel entre ce que regarde un moment le jeune Almodovar du maçon, le signe du regard qui est au-dessus de la ligne, un moment, en fait, on va dire, de la ligne de fracture d'un plan, et directement où se trouve le corps du maçon. Et c'est quelque chose, en fait, qui m'a très vraiment frappé, en fait, au bout du deuxième renvoi. C'est que c'est extrêmement réaliste, et réaliste dans le sens agréable du terme, c'est-à-dire que on voit exactement ce qu'il est en train de voir du corps du maçon. Et c'est un lien qui est très charnel, je trouve, que aussi bien, et que ça se retrouve, en fait, peut-être après dans, en fait, les différents liens. Je trouve qu'il y a un sens de du lien entre les plans qui est très très forte, et moi qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'à chaque fois j'ai jamais la sensation de rupture, ce qui fait que même quand les flashbacks sont extrêmement différents en termes de ton que le moment de la vie réelle, qui est quand même franchement déprimant, c'est pas seulement oh là là il y a Penélope Cruz dans les deux scènes, on va faire un lien thématique, non, c'est des liens mais beaucoup plus ténus et beaucoup plus, je trouve, visuels, qui fait que ça marche incroyablement bien, en fait, sur ça.
C'est exactement ça. Le film est servi par un montage qui est vraiment incroyable. Et c'est toujours ce que tu dis, c'est toujours très ténu, très fragile. C'est-à-dire que c'est de bout en bout extrêmement subtil. À tel point, d'ailleurs, que, enfin, je veux dire, vous avez entendu mes difficultés à résumer, il n'y a pas vraiment de scénario. Il y a des rencontres, il y a effectivement ce personnage de maçon qu'on rencontre dans le passé, qui fait une petite résurgence dans le présent. Il y a le grand amour de la jeunesse du réalisateur qui apparaît, il y a un acteur de son grand film, ces personnages se mêlent comme ça, sa mère qui, du coup, est là un peu en filigrane. Il se passe à proprement parler, enfin, je veux dire, on part pas d'un point A, on n'arrive pas à un point B, mais ça tisse de façon très très fine une espèce de toile de souvenirs autour d'un personnage qui réussit vraiment à en épouser toute la profondeur et toute la fragilité, et c'est effectivement l'un des actes autobiographiques les plus forts que je crois avoir vu au cinéma à ce jour.
Moi, je trouve que c'est un des actes les moins nombrilistes, en tout cas je l'ai pas ressenti, on me l'a pas asséné le... Pour reprendre une phrase de quelqu'un, un des thèmes les plus éculés de la littérature, c'est « j'écris ». Et là, c'est pas le thème éculé du réalisateur « je réalise ». Non, c'est pas du tout ça. Et c'est, moi, je pense que c'est une vraie réussite de film, c'est le fait que j'ai jamais senti l'ego d'Almodovar. Et d'après ce qu'on me dit, bah, que ce soit toi ou d'autres gens que j'ai entendu, ça respire son style. Bah, alors, ça veut dire que alors ça veut dire que c'est un film réussi pour quelqu'un qui n'avait jamais vu d'Almodovar de sa vie, enfin je sais pas.
Eh bien, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus conclure pour vous conseiller le plus vivement du monde d'aller voir Almodovar. Douleur et gloire, c'est encore en salle cet été.